Je suis pas sorti finalement. Je m'y suis pris un peu tard là. Je me suis rasé quand même. J'étais pas rasé depuis mardi. Et puis j'ai été happé par l'atmosphère. Parce que j'en profite quand je suis tout seul, je laisse les volets ouverts pour regarder le crépuscule par la fenêtre. C'est quelque chose que j'adore. Voir décliner le jour à travers la fenêtre. Il y a une coloration particulière. Surtout les jours de pluie, c'est assez agréable. Et voilà. Et du coup, je suis pas sorti. C'est une maladie que j'ai, ça, d'aimer l'atmosphère. Et je me soigne pour ça. Hein. En plus, atmosphère, c'est joli comme mot. Étymologiquement, ça veut dire faire. Ça veut dire faire. C'est pas. Ça vient de sphère, ça veut dire sphère. Et atmos, ça veut dire vapeur humide, il paraît. Je suis pas helléniste. Je fais confiance au dictionnaire. Et c'est tellement joli de voir décliner la nuit comme ça. Ma mère, elle, dès qu'elle voit ça, elle veut fermer la maison, tout ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien ça. Là, j'aperçois la fenêtre de la cuisine, de l'autre côté. Elle est comme ça, un peu opaque. Enfin, c'est une atmosphère pluvieuse comme ça. C'est pas mal. J'aurais mieux fait de sortir quand même. Mais bon, je suis pas encore guéri. Ça doit être ça. Bon ben, à plus.
Bonsoir Monsieur Mermet, c'est Robert, là je suis sur la route. Je viens d'écouter votre émission sur nos camarades d'Amérique latine. Alors, en réponse à ces gens qui ont de la santé, qui ont de l'humour, qui ont de la joie de vivre, qui ont de l'espoir, ben, j'ai qu'une chose à leur dire. Allez, merci Mermet, continuez tous comme ça, à bientôt.
Amis de Lille et des environs, bonjour. Daniel, bonjour. C'est donc bien ce soir, lundi 6 mars à 20h, que nous nous retrouvons, comme les premiers lundis de chaque mois. Alors le repère, c'est le Café Tabac Bar Les Comtes des Flandres, 51 rue de la Monnaie, dans le Vieux-Lille. Donc, bien, à tout à l'heure, venez nombreux. Voilà, au revoir.
À Paris 3, on a voté la grève jeudi dernier, qu'on reconduit tous les jours en Assemblée Générale. On bloque la fac depuis 7 jours pour sensibiliser un maximum d'étudiants sur les dangers du CPE. On organise tous les jours des débats, des animations théâtrales et musicales. On accueille les récalcitrants au blocage avec des petits-déj et on discute avec eux de la nécessité de se mobiliser contre le CPE. Les profs et le personnel IATOS participent activement à notre mobilisation depuis hier. Puisqu'ils ont voté en Assemblée Générale la grève et le blocage, on est donc tous ensemble au piquet de grève. Nos revendications sont l'abrogation du CPE, de la loi sur l'égalité des chances et du CNE. On réclame un CDI pour tous, l'augmentation des postes au concours de l'éducation nationale et lançons un appel à la grève générale jusqu'à satisfaction de nos revendications à tous les jeunes de ce pays et à tous les salariés. Il faut absolument que l'on soit ensemble mardi 7 mars dans la rue pour bien faire comprendre notre ras-le-bol à ce gouvernement qui casse tous nos acquis sociaux. Merci beaucoup, au revoir.
Il faut qu'on soit tous dans la rue pour virer ce gouvernement réfractaire qui casse tous les acquis, tous les travaux, tous les travails. Il casse tout ce gouvernement, il y en a vraiment marre, j'ai jamais connu ça, hein. Et encore c'est pas tout, quand tu lis sur les journaux que tel ou tel endroit c'est des licenciés, tel ou tel endroit c'est encore des emplois en moins, tel ou tel endroit c'est des femmes qui sont les licenciées. Moi je suis devenu comme ce vieux monsieur, comme ces vieilles gens que je rencontre dans la rue. Et ils sont en train de me parler de 32, de 33, c'est la même chose qu'ils disent. Alors la révolution, là-bas si j'y suis, et allez, tous en marche pour le 7, tous dans la rue. C'était Jean-Pierre.
Oui, bonjour Daniel, voilà, je suis en train d'écouter Là-bas si j'y suis avec Antoine Chao, en direct de Bolivie, et ça me donne vraiment la pêche pour me battre. Et j'invite tout le monde à participer à la grève du mardi 7 mars, contre le CPE et contre la droite libérale. Vraiment tout le monde, les étudiants, les chômeurs, les précaires, les travailleurs du secteur privé, du secteur public, tout le monde dans la rue.
Salut là-bas, si j'y suis, ben, j'ai entendu le Premier ministre dire aujourd'hui pour se défendre que quels que soient les trous d'air, il faut garder le cap et qu'il allait garder le cap. Moi, je lui réponds que nous, les étudiants, à La Rochelle et partout ailleurs, on va garder le cap aussi et son contrat premier en merde, il va falloir qu'il le reprenne car nous, on n'en veut pas de ce contrat. On n'en veut pas.
Moi, j'appelle pour dire que j'ai mal aux dents et que ça commence à me faire chier. C'est tout ce que j'avais à dire.
Clandestins de tout pays, unissez-vous. Faites tous grève pour montrer si l'immigration est subie ou choisie. Quand l'économie sera paralysée, on verra si la France subit ou choisit l'immigration. Quand les chantiers ne connaîtront plus le graissement des grues, le battement fiévreux du marteau-piqueur, on verra si la France subit ou choisit l'immigration. Quand nos fruits pourriront sur les arbres, nos vignes se dessécheront sur pied, on verra si la France subit ou choisit l'immigration. Alors, en attendant la grève générale des travailleurs clandestins, faisons grève, nous qui en avons encore le droit. Le 7 mars, défilons aussi pour les sans-droits qui vivent dans l'ombre, pour que les immigrés clandestins ne subissent plus la manipulation langagière d'hommes politiques.
Excuse à tous ceux qui ont laissé des messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Tous vont dans le même sens, préparation de la manif de demain, évidemment, contre le CPM, mais on voit que pas seulement à travers ce message qu'on vient d'entendre et beaucoup d'autres, donc excuse à tous ceux qu'on ne peut pas faire passer, on essaye d'en faire passer un maximum chaque jour, mais l'émission ne fait qu'une heure. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque mois avec l'équipe du Monde Diplomatique, le mensuel de Monde Diplomatique, autour du numéro de ce mois. On parle de ce qu'il y a dans le numéro, et puis on parle d'autres choses aussi avec l'équipe, vous le savez, chaque mois. Et là, une contribution tout à fait riche et éclairante d'une chercheuse qui s'appelle Danielle Linhart, qui donne un papier ce mois-ci dans le Diplo, et qui est très content d'avoir dans cette heure que nous allons passer ensemble. Après les messages que voici et que vous avez laissé. Ah, une petite chose à vous dire aussi. On parlera d'un certain Français qui a traversé l'Amérique. Une chose extraordinaire, pour la première fois, un Français a traversé l'Amérique. Et on va en parler à la fin de cette heure avec Serge Halimi. Mais deux autres auteurs se sont occupés de lui, Nicolas Beau et Olivier Tosser. C'est un bouquin qui sort aux arènes et qui s'appelle Une imposture française. Et c'est un régal. C'est vraiment quelque chose de très cinglant qui s'adresse à notre génie national de la littérature, de la pensée et de la politique aussi, et de la fatuité et de la pédanterie. C'est vraiment le comique pédant, vous avez deviné de qui je parle, mais pour vérifier, attendez la fin de cette heure. Après donc les messages, qui va commencer après les messages que voici au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel. Suite à l'intervention de monsieur Serge Dassault, il serait-il de lui préciser que son père, Marcel Bloch Dassault, a été caché au bloc 61 de Buchenwald par le docteur Daniel Boucher, aidé de monsieur Marcel Paul, ancien résistant communiste de la première heure en juillet 40, aidé de monsieur, également de monsieur Manès, adjoint de Jean Moulin, jusqu'au jour de la libération du camp le 10 avril 1945. Je viens de lire ceci dans un livre écrit par le docteur Boucher, résistant de la première heure en 40 et docteur en Poitou. Merci, c'était Pierrette de Vorpa.
Bonjour Daniel, Eric, professeur d'anglais au lycée de Bourdin dans la banlieue lilloise. Voilà, le gouvernement vient de décider la suppression de 636 postes d'enseignants dans l'académie de Lille et 10 pour notre seul établissement scolaire. Donc les enseignants se sont mobilisés pour organiser vendredi prochain, le 10 mars, une journée de grève et d'action sur place dans le lycée. Donc le vendredi matin de 9h à 11h, nous serons sur le marché de Bourdin pour distribuer des tracts pour informer la population. À 11h, nous recevrons la presse et les élus pour faire connaître nos revendications. Et dans l'après-midi, il y aura une assemblée générale dans le lycée à laquelle pourront participer les parents qui souhaitent nous rencontrer et avoir un échange avec nous sur nos difficultés, nos revendications. Voilà, ce message donc s'adresse à tout le monde. Toutes les personnes intéressées par cette question seront bien évidemment les bienvenues. Voilà, à très bientôt et bonne semaine à tous.
Salut, c'est Arnaud de Tours. Je suis prof des écoles et je viens de rédiger une lettre aux parents qui explique les raisons de ma grève du mardi 7 mars. Alors voilà, bah, si modestement ça peut permettre de comprendre pourquoi des enseignants se joignent au mouvement, je vous en fais lecture. Madame, monsieur, la formation des jeunes, écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, les conditions créées pour leur accession à l'emploi et le développement de leur personnalité sont du domaine de la responsabilité collective. L'abaissement de la scolarité obligatoire de 16 à 14 ans, le travail de nuit dès l'âge de 15 ans, la récente loi d'orientation sur l'école. Toutes ces mesures prennent le contre-pied d'une politique de formation de personnes libres de leur jugement et de leurs actes. La volonté d'éduquer des femmes et des hommes libres ne semble pas aller de pair avec celle de faire entrer nos enfants plus rapidement sur le marché du travail. En complément, la mise en place du contrat nouvelle embauche l'été dernier et le projet de contrat première embauche marquent la volonté de généraliser la précarité de tous les salariés. Je pense que l'ensemble des salariés, actifs et retraités, demandeurs d'emploi, se doivent d'être aux côtés des lycéens et étudiants qui se mobilisent. C'est le sens de mon engagement dans la grève du mardi 7.
Bonjour Daniel, alors, c'est Martine, infirmière en Indre-et-Loire. C'était un petit peu pour pousser un cri là aujourd'hui. Avec le temps, il se prête pas. Là, je m'apprête à aller voir ma clientèle, je suis infirmière libérale. Et je pousse un cri, oui, pour l'augmentation des médecins qui le méritent, hein, ça y a pas de problème, moi je suis pas contre. Mais les infirmières, on n'en parle jamais, on est payé 2,90€ la piqûre, il faut fournir les produits, c'est-à-dire la seringue, l'aiguille. Et quand il y a deux actes, le deuxième est payé moitié prix. Et s'il y a un troisième acte, on n'est pas payé. Alors là, je pousse un cri, aujourd'hui ça m'énerve, faut que je garde mon calme. Et j'espère que mon message sera passé à l'antenne. En tout cas, je donne le bonjour à toutes mes collègues qui aujourd'hui vont galérer un petit peu avec le temps. Et je te remercie.
Salut Périgourdin, c'est à Exideuil, le point repère, au Dracar. C'est le mardi et c'est la troisième à partir de 20h. Le numéro de téléphone 05 53 62 96 20. À bientôt les gars.
Bonjour. Ce matin, je n'ai pas le cœur à rire. Dans ma HLM à Villejuif, une femme dépressive s'est suicidée. Ce n'est pas les terroristes qui l'ont tuée. Ce n'est pas la route ni la violence urbaine. Comme les 30 suicidés par jour, personne n'en parlera. Par contre, dans ma HLM, si des jeunes se rassemblent dans les escaliers, on a reçu une directive où il est dit qu'on peut appeler la police, elle arrive dans le quart d'heure qui suit. Contre la misère sociale, par contre, rien n'est prévu. Marie-Paul.
J'appelais pour rappeler que le repère des amis de la Basse, j'y suis, avait lieu ce soir à la pleine lune à 20h. Et donc voilà, ça vient de passer l'info. Et sinon, un petit message à Monsieur de Villepin. J'espère qu'il va bien réfléchir demain parce que si les manifestations suffisent pas, je sais plus ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, bon ben en tout cas rappelez l'info pour le repère là-bas, si j'y suis, à Montpellier. Ciao.
Des nouvelles du lycée de Clamecy dans la Nièvre. Après la décision du recteur d'académie de Dijon de supprimer des sections BEP, Terminal STT et le BTS PME PMI, parents d'élèves, élèves majeurs et professeurs occupent le lycée toutes les nuits depuis lundi 27 février. Nous recevons l'appui des élus locaux, régionaux, nationaux et de personnalités. Vous pouvez nous envoyer des messages sur notre blog. Alors, en un seul mot, SOS lycée sans accent ruraux point haut et fort en un seul mot point com. SOS lycée ruraux point haut et fort point com. Des assises nationales des lycées ruraux se tiendront à Clamecy le samedi 8 avril. Venez nous rejoindre. Au revoir.
Amis du repère de la base, si j'y suis, mardi 7 mars sera notre quatrième rencontre. Le thème de la soirée sera le travail, les modifications du code du travail, quels en sont les enjeux. Avouez tout de même que ce thème sera parfaitement de circonstance. Donc, si vous voulez vous aussi échanger vos idées et créer le débat, venez nous voir. Mardi 7 mars à 20h30 en Corrèze, à Saint-Pantaléon-de-l'Arche, au crocodile gourmand. Merci.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, on est avec le numéro du mois de mars, du monde diplomatique. C'est l'oral du diplôme. Et on va parler de ce qu'il y a dans le diplôme et de ce qu'il n'y a pas dans le diplôme de ce mois de mars. On va commencer par ce qu'il y a. Ignacio Ramonet, un édito sur la démocratie et la démocratie à géométrie variable. C'est-à-dire que la démocratie, c'est bien dans la mesure où ça favorise le point de vue des puissants, quoi, en somme.
Oui, c'est bien à condition qu'on ait un peu la garantie que le bon candidat remportera les élections. C'est ça, si vous voulez. C'est vrai, on rappelle la célèbre phrase attribuée à Winston Churchill, comme vous savez, qui est « la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres ». Mais tout de même, depuis quelque temps, les démocraties sont devenues le régime obligatoire, en quelque sorte. On n'accepte plus n'importe quel autre type d'organisation politique, de méthode politique, alors que nous savons très bien, enfin, disons, les spécialistes de sciences politiques savent très bien que la démocratie est un régime extrêmement difficile à mettre en place, en raison même de ses exigences. Il faudrait que tous les responsables soient parfaitement purs, il faudrait que la corruption n'existe pas, il faudrait que la presse soit véritablement libre, que les libertés soient absolument garanties, etc. Donc on sait, en définitive, qu'on travaille sur des démocraties un peu imparfaites. Mais malgré ça, c'est devenu le régime obligatoire. Tout ce qui s'éloigne un peu de ce modèle, eh bien, évidemment, est sanctionné. Et ça, c'est l'exigence d'aujourd'hui. L'un des aspects, disons, de l'idéologie dominante d'aujourd'hui, c'est d'exiger que les régimes politiques soient des démocraties. Mais lorsque, dans certaines régions du monde, des élections se produisent, ont lieu, eh bien, si le résultat ne plaît pas, on fera campagne en disant que c'est pas tout à fait une très très bonne démocratie. Personne ne songe, par exemple, au fait que aux États-Unis, George Bush lui-même a été quand même élu, disons, la première fois, dans des conditions plus ou moins discutables. Alors, on a eu trois cas récents. Le premier, c'est le cas de ce qui s'est passé en Palestine, dont on avait d'ailleurs dit un mot dans une des éditions précédentes, où il y a une exigence de la communauté internationale que la Palestine devait donner l'exemple d'élections, notamment dans le monde arabe, l'exemple d'élections absolument démocratiques, vérifiées. Il y a eu pléthore d'observateurs étrangers envoyés par l'Union européenne, par un certain nombre d'organisations internationales. Et puis, les résultats ont été vérifiés, ils correspondent au souhait des électeurs, mais patatras, c'est le Hamas qui a été élu. Alors là, du coup, on dit bon, ben ça convient pas. Évidemment, il faut boycotter ce pays, il faut lui retirer les subventions. C'est clair que le Hamas a commis des attentats qui sont absolument inacceptables contre des civils israéliens en particulier, qui sont inacceptables. Mais alors, il fallait au départ ne pas lui permettre de se présenter aux élections, et donc à ce moment-là dire c'est pas la démocratie n'est pas un bon truc. En ce moment, nous sommes en train d'observer que après les élections organisées en Irak avec la présence des forces d'occupation, un certain nombre de responsables américains disent que ce résultat finalement ne convient pas tellement bien et qu'ils vont pas approuver n'importe quel gouvernement issu d'élections qu'eux-mêmes ont organisées. Mais nous avons l'exemple de l'Iran là également, où l'ensemble des médias s'était extasié sur le déroulement de l'élection. Quand on se souvient de ce que disaient tous les médias pratiquement français, qui étaient célébraient enfin des élections en Iran, qui se déroulaient tout de même, bon, certes, avec des limitations, etc. Mais tout de même, c'était formidable, parce qu'on était sûr que Rafsanjani allait l'emporter. Et puis là encore, patatras, à la grande surprise des observateurs, entre guillemets, occidentaux, c'est Ahmadinejad qui l'a emporté. Alors c'est pas le bon. Et c'est comme c'est pas le bon, alors du coup, bien entendu, on le met au piqué, l'Iran est un danger nucléaire, Ahmadinejad est un fou. Il faut dire qu'Ahmadinejad fait des déclarations, là encore, sur Israël, inacceptables. Mais c'est le résultat d'élections qui ont été approuvées par l'ensemble de la communauté internationale jusqu'au moment où on a eu le résultat. De la même manière, encore plus récemment, en Haïti, où toute la communauté internationale est autour d'Haïti, c'est un pays pratiquement sous protectorat des Nations Unies, Là aussi, on a organisé des élections, etc. Et quand on a soupçonné que ça pouvait être René Prédal qui allait être élu, on a, comme on sait, truqué les élections, puisqu'on a découvert, dans un certain nombre d'endroits, on a découvert des bulletins de vote au nom de René Prédal, qui n'ont pas été comptabilisés. Ensuite, par une pirouette, on l'a remis en place parce que le peuple se révoltait. Et donc, finalement, la thèse selon laquelle Aristide avait été refusé par le peuple et qui n'avait jamais été testé par la voie électorale, puisque ce qu'on reproche à Prédal, c'est d'être un ami d'Aristide. Aristide qui a été renversé par une sorte de révolte militaire. Bien, c'était faux. En réalité, disons aujourd'hui, que ça nous plaise ou pas, une majorité d'Haïtiens souhaite, disons, que la ligne que représente Aristide ou qu'incarne Prédal proche d'Aristide soit celle qui gouverne ce pays. Bon, alors donc la question qui est posée en général, c'est nous voulons qu'il y ait des démocraties, mais sommes-nous prêts à accepter que le résultat de ces élections nous déplaise ? Eh bien, aujourd'hui, par exemple, dans beaucoup de pays arabes en particulier, s'il y avait des vraies démocraties, les islamistes seraient au pouvoir. Et de même que l'Occident a fermé les yeux sur l'Algérie quand les islamistes l'avaient emporté et on a accepté le coup d'État, mais aujourd'hui, curieusement, le discours officiel, c'est de dire « il faut une démocratie, c'est ça qui est important », et c'est le reproche qu'on peut faire, je ne sais pas, à Chavez, par exemple, lui-même, qui est le résultat d'élections, ou à d'autres régimes, il faut absolument des élections, et encore des élections, et encore des élections. Quand ça ne plaît pas, disons, aux quelques puissances qui pilotent le monde, à ce moment-là, bien sûr, on n'accepte pas le résultat. Donc on se dit, il y a quand même pas mal d'hypocrisie dans cette volonté de revendiquer la démocratie.
On continue avec le numéro du Monde Diplomatique de ce mois de mars et on va parler de ce qui va se passer demain, c'est-à-dire ces manifestations contre le CPE. Il semble qu'effectivement le gouvernement, en tous les cas le Premier ministre, soit un petit peu dans une situation délicate que certains de ses prédécesseurs ont connu. Martine Bullard.
Oui, j'espère que les manifestations demain sont très importantes. On a déjà vu des ministres droit dans leurs bottes, comme on dit, être contraints de supprimer les dispositions qu'ils avaient prises. Ça a été le cas naturellement de M. Juppé sur la sécurité sociale, mais ça a été le cas aussi de M. Balladur avec le CIP qui avait été supprimé après les manifestations de jeunes. C'était aussi un contrat d'insertion professionnelle qui était un contrat temporaire, là encore, avec des mesures dérogatoires au droit du travail que les jeunes avaient réussi à repousser. Alors, il s'agit de quoi avec ce contrat de première embauche ? Il s'agit de livrer les jeunes, qu'ils soient qualifiés ou pas qualifiés, au bon vouloir du patron ou du chef, qui peut les licencier à tout moment, et ce, pendant 2 ans. Alors, on imagine ce que ça peut donner, c'est-à-dire, on imagine un jeune qui, proteste un peu trop, qui l'ouvre un peu trop, comme on dit grossièrement, ou un jeune qui veut syndiquer, ou simplement un jeune qui, devant une situation dangereuse face dans son travail, décide de pas d'arrêter le travail, eh bien, il est immédiatement licencié sans qu'il y ait le début du commencement d'une motivation par le dirigeant d'entreprise. On revient à une situation qui était antérieure à 1973. Il a fallu la loi de 1973 pour que le patron décide, enfin marque très clairement les raisons pour lesquelles il licencie le salarié. Alors, on nous dit que ça va favoriser l'emploi des jeunes. Il faut bien voir que ça fait la 35e mesure depuis 1977 dite en faveur des jeunes. C'est-à-dire, et à chaque étape, on a d'abord commencé à créer les TUC, pour les plus anciens, c'est les travaux d'utilité collective. Il s'agissait d'introduire dans le droit du travail les contrats pour jeunes, spécifiquement pour jeunes, sans que ça leur donne d'ailleurs les autres droits sociaux. Et puis, à chaque étape, on a multiplié les dérogations. C'est vrai pour les jeunes, mais ça était vrai pour les femmes. On a créé le temps partiel, qui est dérogatoire, là aussi, le temps partiel non choisi, évidemment, hein, dérogatoire, si je puis dire, c'est-à-dire 80% des emplois partiels sont assumés par les femmes. On est à la veille de la journée internationale des droits des femmes, et à nouveau, tout le monde va pleurer sur le fait que les femmes sont les premières concernées par les bas salaires, et ces bas salaires viennent précisément du temps partiel non choisi. On a aussi créé, dans ce cadre-là, le contrat de nouvelle embauche, qui est la même chose que le CPE, mais pour les plus âgés, et qui font que pendant 2 ans, là encore, les salariés pourront être licenciés sans aucune forme de procès. On s'aperçoit, puisque ces contrats de nouvelle embauche sont mis en place depuis le mois d'août, et on s'aperçoit d'ores et déjà que les cas se multiplient de gens licenciés parce qu'il parle de trop, parce qu'il a une tête qui ne replaît pas, parce que le patron décide de faire un turnover des salariés. Fort heureusement, dans le droit français, malgré tout et malgré ces mesures dérogatoires, les salariés essaient d'aller devant le prud'homme, hein, pour essayer de faire valoir le droit. Mais on imagine qu'un jeune qui a déjà pas beaucoup d'argent aura des difficultés pour aller devant les prud'hommes. En revanche, avec ce CPE, non seulement les jeunes d'un côté sont soumis au bon vouloir patronal, mais du côté des entreprises, elles sont à nouveau exonérées de cotisations patronales pendant 3 ans. Elles peuvent changer de salarié, mais les cotisations, la baisse des cotisations se poursuit. Il faut bien voir qu'en 2005, il y a eu 24 milliards d'euros d'exonération de charges, sans qu'on sache si ça a aidé ou non à créer des emplois. On estime que c'est un cadeau de l'ordre d'un SMIC annuel à chaque patron qui a bénéficié de ces cotisations salariales. Alors on nous dit c'est pour la compétitivité. Les faits montrent exactement le contraire. Il suffit de regarder le commerce extérieur français. Pour qu'on est en déficit record, c'est bien parce que non pas ce n'est pas un problème de coût salarial, mais c'est un problème d'innovation. Et d'ailleurs significatif que les chercheurs actuellement soient à nouveau en lutte parce que les budgets pour la recherche sont considérablement réduits et inférieurs à ce qu'ils devraient être en France. En revanche, les coûts salariaux, toutes les études officielles montrent que les coûts salariaux en France, c'est-à-dire les salaires plus les charges, sont inférieurs en France à ce qu'ils sont en Allemagne, à ce qu'ils sont aux États-Unis. La France est un pays de bas salaires. Alors, où passe l'argent qu'on donne aux entreprises ? Elle passe à rémunérer le capital. Les entreprises du CAC 40, comme on dit, c'est-à-dire les plus grosses entreprises françaises qui sont cotées en bourse, ont affiché en 2005 un profit record de 60 milliards d'euros et les dividendes versés ont augmenté de 31%. Depuis 2001, les dividendes versés par les grandes entreprises aux actionnaires a été multiplié par 2,5. Autrement dit, et pour être très clair, la rémunération du capital augmente et la rémunération du travail baisse. Alors les experts disent qu'il y a un partage de la valeur ajoutée moins favorable aux salariés. En vérité, il faut appeler un chat, c'est une rémunération du capital de plus en plus élevée et c'est la raison pour laquelle on modifie et on baisse les coûts du travail en faisant une précarité de plus en plus forte. Mais c'est une évolution qui dure depuis maintenant 30 ans. Je pense que Daniel Linhart pourra en parler.
Voilà, Daniel Linhart, vous avez donné un papier au diplôme ce mois-ci. Vous êtes sociologue, vous enseignez la sociologie à Paris 10, c'est ça ?
Je suis chercheur au CNRS.
D'accord. Alors, comment vous voyez, vous parlez de l'évolution de la précarité ?
L'évolution de la précarité, ça correspond à mon avis à une clarification de ce que représente le contrat de travail. Le contrat de travail, c'est le paiement par un employeur du temps d'un salarié qu'il achète. Il achète pas le salarié, mais le temps. Et toute la question, c'est comment est-ce que l'employeur fait l'usage de ce temps pour en retirer le profit le plus substantiel de son point de vue. Bon, et tous les problèmes de gestion du salariat des salariés, comme d'organisation du travail, relèvent de cette caractéristique que les économistes appellent l'incomplétude du contrat de travail, c'est-à-dire que l'employeur sait combien il va payer son salarié, mais il ne sait pas en retour ce qu'il va recevoir de son salarié. Hein. Tout dépend de la façon dont il va le gérer et organiser le travail de ce salarié. C'est tout l'enjeu qui est inscrit dans un rapport de force fondamental de ce contrat salarial qui se base sur une inégalité fondamentale, c'est-à-dire que l'employeur achète du temps du salarié, donc il achète sa vie. Hein, le temps, c'est de la vie. Et là, ce que l'on voit avec une précarisation, ce qu'on peut appeler en fait une marchandisation de plus en plus forte de ce temps de travail, c'est-à-dire que l'employeur veut le prendre de la façon la plus crue, la plus pure possible et en faire l'usage qui lui convient au moment où il en a besoin.
Serge Animi.
Non, je voulais juste apporter un complément à tel point que aux États-Unis, la firme Walmart sanctionne ses employés en les accusant de time theft, vol de temps, quand ils parlent entre eux. En estimant qu'elle achète leur temps et que leur temps doit être entièrement consacré au service de la firme.
Mais il ne faut pas de scories, justement. Le moins de scories il y aura, le plus l'employeur y trouvera son bénéfice. Et tous les débats qu'il y a eu autour des 35 heures sur qu'est-ce qui rentrait dans le temps de travail, qu'est-ce qui n'y rentrait pas, les pauses, l'habillage, joindre son lieu de travail, ça peut être des kilomètres sous un tunnel, tout ça faisait effectivement partie du débat. C'est un enjeu énorme. Et là, on se trouve dans une situation qui, à mon avis, se caractérise par le fait qu'il n'y a plus de compromis. C'est-à-dire que on n'a plus un rapport de force qui soit de telle sorte qu'il y ait des organisations, notamment syndicales, capables de défendre l'intérêt des salariés, de peser sur le...
Alors pourquoi cet affaiblissement syndical ?
Alors l'affaiblissement syndical, c'est une longue histoire qui remonte à 68. Hein. En 68, ce qu'il est apparu, c'est que il y avait un désaccord entre les politiques revendicatives des syndicats qui demandaient sans cesse une augmentation de salaire sans se préoccuper en aucune façon de ce qu'on appelle la qualité de la vie au travail. C'est-à-dire comment est-ce que les salariés travaillaient et qu'est-ce que l'employeur exigeait d'eux. C'est une question qui n'est apparue véritablement qu'au cours de 68. À partir de cette question fondamentale qui est, nous voulons une vie plus supportable dans notre milieu de travail et nous ne voulons pas uniquement compter sur le temps de loisir pour vivre et pour nous réaliser. Donc il y a eu un décalage à ce moment-là et les syndicats n'ont pas évolué suffisamment vite parce qu'ils n'avaient pas le savoir-faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on négocie l'organisation du travail ? C'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'à ce moment-là, on risque de dresser des catégories les unes contre les autres, des catégories professionnelles. Si on va améliorer le sort des OS en bas, par exemple, ça veut dire qu'on va grignoter sur les prérogatives, les petites prérogatives professionnelles des ouvriers plus qualifiés. Et si on développe les ouvriers plus qualifiés et on améliore leur sort, on va grignoter sur les petits privilèges professionnels des techniciens puis des cadres et ça remonte en cascade. Donc c'est vrai que du point de vue syndical et notamment dans la tradition française, il était plus aisé de revendiquer les augmentations salariales pour tous. Personne ne pouvait être en désaccord. Mais commencer à s'ingérer dans ce qui relève de l'organisation du travail, ça posait des problèmes insurmontables. Et c'est à ce moment-là que les syndicats ont commencé à se défaire et qu'on a vu une offensive patronale beaucoup plus aisée pour imposer ce qui lui convenait. Et notamment...
Ce qui lui convenait, c'était la précarisation générale, ce qui entraîne la désyndicalisation aussi.
Alors, c'était essentiellement la désyndicalisation, c'est-à-dire... limiter les effets néfastes de l'organisation syndicale sur la réalité du travail dans les entreprises, et notamment ça passait par ce que le patronat de l'époque appelait une démassification, c'est-à-dire comment mieux inverser le rapport de force que en individualisation. C'est-à-dire qu'il fallait sortir de cette logique de confrontation massive du point de vue du patronat entre une classe ouvrière homogène, compacte, et puis le patronat. Donc, l'idée d'une individualisation s'est faite jour dans cette période-là, très clairement, d'ailleurs, puisqu'aux assises du patronat à Marseille en 1972, il a été explicitement proposé comme alternative pour sortir de la crise de procéder à une individualisation systématique. Alors, ce qui était intéressant à l'époque du point de vue du patronat, c'est l'ambivalence fantastique de ce choix stratégique d'individualisation, parce que d'un côté, évidemment, évidemment, ça a entraîné une vulnérabilisation extrême de la classe ouvrière, mais de l'autre côté, ça allait dans le sens du poil, puisque ça répondait à certaines attentes qui s'étaient manifestées au cours de 68. Nous ne voulons plus perdre notre vie à la gagner, nous sommes tous des femmes, nous sommes des jeunes, nous sommes... Cette idée de spécifier un petit peu chaque salarié, de reconnaître sa valeur, la valorisation de la personne, ça faisait aussi partie des revendications qu'on entendait dans les manifestations et dans les usines à cette époque-là. Donc le patronat a finement joué sur cet aspect ambivalent, c'est-à-dire nous sommes à l'écoute de nos salariés, nous entendons qu'ils cherchent à se valoriser, qu'ils veulent avoir être reconnus pour ce qu'ils sont, donc nous allons nous tourner vers leur intelligence et nous allons les mobiliser individuellement. Voilà. Et à partir de ce moment-là, s'est mis en place toute une politique d'individualisation des horaires, des augmentations de salaire, des classifications, avec par exemple comme aboutissement l'entretien individuel où chaque salarié quasiment négocie son rapport avec sa hiérarchie et son entreprise, puisque il définit lui-même avec son supérieur les objectifs qu'il va se fixer, et puis l'année suivante il va évaluer ses performances, et du coup ça va entraîner une définition un peu de son avenir professionnel dans l'entreprise, est-ce qu'il va avoir des promotions, est-ce qu'il va avoir des formations, est-ce qu'il va avoir des augmentations de salaire. Donc si vous voulez, cette idée d'individualisation s'est développée, s'est mise en place dans le cadre d'un rapport de force qu'il s'agissait d'inverser, et puis à rencontrer une conjoncture qui se transformait. À partir des années 80, on a bien vu quelle était la teneur de la crise, les dimensions plus importantes qualitatives, de réaction, d'innovation étaient mises en avant et allaient tout naturellement dans le sens d'une personnalisation du rapport au travail, d'une individualisation de la relation salariale, avec aussi une montée en puissance dans notre économie du secteur tertiaire et notamment des services, où l'idée d'un travail beaucoup plus interactif est difficile à tayloriser, etc., s'est avancée. Et donc, tout cela a fait corps, tout ça a pris sens, et nous sommes maintenant dans une situation où l'individualisation est parvenue à maturité dans tous les secteurs du monde du travail, avec même une singularisation, et du coup avoir un contrat de travail spécifique pour les seniors, un contrat de travail spécifique pour les jeunes, un autre ça va être pour les handicapés, pour les femmes à temps partiel, etc. Ça rentre tout à fait dans ce cadre, à la fois d'une atomisation, d'une vulnérabilisation, d'une classe de salariés qui n'est plus susceptible, qui n'est plus en mesure de négocier ses intérêts et de défendre son avenir. Et puis, ça va aussi dans le sens de ce que j'appelle la marchandisation, c'est-à-dire qu'on va obtenir des situations d'emploi et de travail où on va prendre les gens exactement au moment où on en aura besoin, au meilleur moment de leur forme à eux, c'est-à-dire qu'on va réclamer l'excellence et donc on va les prendre de tel âge à tel âge parce qu'ils auront la meilleure vue si on a besoin de gens qui aient une bonne vue, la meilleure oui, le meilleur dévouement, le meilleur engagement, c'est-à-dire quelque chose de plus en plus ciblé, on va les prendre au moment où ils sont les meilleurs. Pour le moment où on a le plus besoin, on va leur demander un engagement total, et c'est les termes d'un mercenariat maintenant d'entreprise qui a son idéologie, son éthique, hein, d'engagement à fond, d'excellence, le temps dont on a besoin d'eux.
Dominique Vidal.
Est-ce que ça explique...
C'est radical ce qu'on vient d'entendre là, hein, c'est voilà, clair.
Est-ce que ça n'explique pas aussi ce qui, moi, m'a beaucoup frappé, qui était un paradoxe des années 80-90, où il y avait cette idée tarte à la crème, la classe ouvrière diminue, elle perd en poids, alors qu'en fait, c'est pas son poids qui diminue, mais sa conscience d'être classe ouvrière pour les raisons que vous dites. Le fait que cette atomisation, cette individualisation, cette introduction d'une concurrence entre salariés amène en fait une perte de conscience, d'où une perte de capacité à structurer, à organiser, à penser une alternative, etc. Je trouve que c'est, le lien est fort là.
Hein. Ainsi qu'une perte de visibilité, c'est-à-dire que la classe ouvrière n'existe plus pour personne. Si vous demandez, il y a un livre qui s'appelle « Retour sur la condition ouvrière », très intéressant, où un des auteurs, Pialou, qui est professeur à l'école des hautes études en sciences sociales, demande à ses étudiants, à votre avis, combien il y a d'ouvriers ? Alors, il y en a un qui hésite, 300, 400 000, etc. Devant l'air stupéfait du professeur, il se dit, mais c'est moins, c'est plus. Bon, ils sont plus de 4 millions, entre 4 et 5 millions. Mais ils sont devenus invisibles.
Et à donc, eux-mêmes.
À eux-mêmes et pour la société. Et pour la société.
Et comme souvent ils épousent des employés, la présence ouvrière dans la société française est tout à fait massive, puisqu'il y a une majorité d'ouvriers et d'employés en France.
On le retrouve au moment des élections. C'est-à-dire qu'on redécouvre à chaque période d'élection, on redécouvre la classe ouvrière et les employés, c'est-à-dire les couches populaires. Et ça, je reviens sur le titre du Monde diplomatique. C'est pas par hasard si on a titré sur hier solidaire, désormais concurrence. Ce que montre bien Daniel, c'est que désormais, pour arriver à garder son emploi, on est obligé de lutter contre celui d'à côté. Alors qu'autrefois, pour garder son emploi, on était solidaire.
Si on remonte à autrefois, avant solidaire, c'était la même chose. Ouais, si on remonte au 19e siècle...
C'est exactement ce que montre Florence Lefrène dans un autre papier, notre article du Monde diplomatique, qui montre comment on a lutté très longuement pour arriver au contrat de travail avec protection sociale, parce que curieusement, le contrat de travail a représenté un plus, une protection par rapport à la période où le salarié était face à face avec le patron, sans rien du tout, même pas un papier, quoi. Hein. Et le contrat de louage du 19e siècle, d'une certaine manière, a représenté un plus, curieusement, parce qu'il était, lui, c'était un CDD, c'était un contrat sur une période déterminée, mais le paradoxe était que ce contrat de louage sur une période déterminée était plus favorable, était plus protecteur que le louage sans autre forme de procès, qui fait que le salarié était carrément esclave de l'employeur, qu'il le licenciait comme on voulait. Il y a un aspect quand même, sans faire du catastrophisme, parce que fort heureusement, majoritairement, les salariés aujourd'hui sont encore en contrat de travail à durée indéterminée avec des protections sociales, mais malheureusement le CPE ou le CNE s'inspire de ces périodes où le salarié est vraiment à la disposition totale de l'employeur, et ça je pense que c'est une grosse chose.
Ignacio. Et dans certains pays, l'Irlande, l'Espagne, déjà les salariés à contrat à durée déterminée sont majoritaires. Donc c'est-à-dire c'est déjà un modèle qui est en train de nous être présenté comme un modèle efficace. En Angleterre, je ne connais pas les chiffres, mais ils ne doivent pas être très loin de ceux de l'Irlande.
O de mattina via mi senti gaia che fue, ma te di roba pure e sotto e mi rinnuie, ma di musca il travai, ma di musco che la fa. O una mucchi de spasa, scritto nome svale. O una mucchi de spasa, scritto nome svale. Prima tanti in lupantai che si leva tu si se, ma di musca il travai, ma di muslo che la fa. Ti mangia di due diable, va a bagnare a cane. Ti mangi di due diable, va a bagnare a cane. Me spiego mica maga, domani si è già mai tardi, ma di musca il travai, ma di muslo che la fa. Per la della buona plaza, forse specializza. Per la festa e l'unesi, tenire capacità. Ma le busca il travai, ma le busca per la fa.
Ma io sono il barbaro, tu sai.
Ok, on continue avec le diplôme de ce mois de mars. Et dans ce diplôme du mois de mars, on fait comme dans toute la presse, on parle de BHL. On parle de Bernard-Henri Lévy qui sort un livre où, sur les pas de Tocqueville, Bernard-Henri Lévy parcourt les États-Unis. Serge Halimi.
Cette différence qu'on n'en parle pas exactement comme le reste de la presse. Alors effectivement, on peut dire encore BHL, et oui encore, il recommence, alors nous on recommence aussi. C'est un peu le travail de pédagogie, le travail d'éducation politique, d'éducation populaire. Les phénomènes se reproduisent, on est obligé d'y répondre à chaque fois. Il nous a donné les motifs de son ouvrage, je le cite, « On ne sait à peu près rien de l'Amérique contemporaine ». Ça a été pour moi une révélation qu'on ne savait à peu près rien de l'Amérique contemporaine. J'avais l'impression qu'on savait beaucoup de choses. Alors, naturellement, lui, il nous explique. Et je vais citer ce passage parce que je le trouve effarant, et d'autant plus effarant que cet auteur est maintenant partout, quoi, qu'il est dans notre univers, on ne peut pas se lever ou se coucher sans l'entendre. Bernard-Henri Lévy. Bien sûr que non, l'Amérique n'est pas réac. Et je dirais même d'ailleurs que l'Amérique a au contraire, ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, changé dans le bon sens. Et il serait dommage que l'arbre réactionnaire, c'est-à-dire George Bush et les gens autour, cache le formidable progrès qu'a connu cette société. Je dirais au contraire que la grande révolution démocratique américaine, lancée dans les années 60-70, a triomphé. Peut-être même que la vague réac qui a porté George Bush au pouvoir à deux reprises, peut-être que c'est moins une vague irrésistible, irrépressible, peut-être que c'est un baroud d'honneur d'une vieille Amérique conservatrice qui livre sa dernière bataille parce qu'elle ne veut rien céder. Alors, on entend ça et on se dit tout de même, mais que connaît-il de ce pays? Est-ce qu'il avait vocation à nous en parler? Vraiment un progrès formidable que cette société connaît par rapport aux années 60-70 en matière d'inégalité. Je reviens pas sur ce qu'on a souvent traité dans le monde diplomatique, y compris dans cette émission. Les données ne prêtent pas au moindre débat. Un progrès par rapport aux années 60-70 en matière de Cour suprême, qui n'a jamais été plus solidement vissée à droite depuis que Ronald Reagan est arrivé au pouvoir. Un progrès en matière de fait que depuis 1994, la majorité au Congrès, dans les deux chambres, est assurée par les Républicains, à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants, et que ça a marqué en 1994 une rupture avec 40 ans d'histoire américaine. Un progrès par rapport au fait qu'à l'heure actuelle, la majorité des États ont des gouverneurs républicains et des assemblées parlementaires entre les mains des Républicains, d'un parti républicain qui est plus dominé que jamais par la droite religieuse. Un progrès par rapport au fait qu'à l'heure actuelle, le Parti démocrate n'a jamais été aussi loin de ses racines ouvrières, en particulier du fait de la présidence de Clinton et de ce qui a suivi. Un progrès par rapport au fait que le nombre des détenus a été multiplié par 4. Bon, on lit tout ça, on entend tout ça, et on se dit, il y a un problème. Il y a un problème quand on peut débiter de telles fadaises, de telles âneries de cette manière et continuer à avoir le même carnet de balles dans la presse, à faire la une du Monde 2, du Nouvel Observateur, du Point, à être partout à la radio, à la télévision, alors que l'ouvrage en question qui traite des États-Unis a été très fraîchement reçu par les Américains eux-mêmes. Et nous avons fait un exercice particulier avec ce numéro pour traiter de Bernard-Henri Lévy. Je me suis adressé à un universitaire américain qui est professeur à Harvard, qui ne connaissait pas BHL, qui ne sait pas qui est BHL.
Ah ben alors, il connaît rien, ce gars-là.
Non, mais je lui avais demandé de lire ce livre il y a plusieurs mois, avant qu'il fasse sa tournée, son gala aux États-Unis, en lui disant, voilà, il faudrait que vous lisiez ce livre et que vous nous disiez ce que vous en pensez. Il est professeur à Harvard, il est spécialiste donc de la société américaine, de la politique américaine, et il nous en livre le commentaire. Et je pense que quelqu'un qui analyse ce livre avec la connaissance qu'il a du pays peut nous apporter quelque chose à la fois sur ce pays, à supposer qu'on ne le connaisse pas, ce qui serait tout de même triste, et sur le fait qu'un ouvrage à ce point ridicule, caricatural, puisse être célébré comme il l'a été en France. Évidemment, l'auteur du livre connaît les États-Unis parce qu'il l'a visité en voiture à chauffeur. C'est tout de même une caractéristique assez extraordinaire de la sociologie moderne. Il a visité le pays en voiture à chauffeur, il a rencontré un certain nombre de célébrités, et à partir de ses entretiens avec les célébrités, il a livré ses commentaires sur les États-Unis.
Tu n'as pas de chauffeur, toi, Serge, quand tu fais les reportages aux États-Unis, quand même?
En règle générale, non. Et puis, je fais pas seulement des reportages. Il m'est arrivé d'y vivre, d'y enseigner pendant plusieurs années. Donc, je suis un peu frappé par la chose. D'autant qu'il ne faut pas la minimiser. Ces gens comme Bernard-Henri Lévy, Minc, Nicolas Bavré sont vraiment les penseurs du pouvoir. Je lisais une enquête, un entretien avec Nicolas Sarkozy publié dans la presse américaine par un journaliste américain qui disait qu'en quittant le ministère de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy avait dit à ce journaliste, pour bien connaître la France, adressez-vous à deux personnes que je vous recommande, Alain Minc et Nicolas Bavré. Donc on a un problème d'autant plus sérieux quand ce livre nous est présenté à la télévision publique par le ministre de la Culture. Le ministre de la Culture a fait la promotion du livre de Bernard-Henri Lévy. La télévision publique elle-même va nous produire un documentaire sur la tournée de Bernard-Henri Lévy.
Heureusement pas la radio.
À la radio, il a disposé hier d'une émission d'une heure sur Europe 1 qui a été diffusée par TV5, donc à l'échelle de la planète. Donc un documentaire sur le voyage de BHL, produit par la télévision publique. BHL est par ailleurs président du conseil de surveillance d'Arte, en même temps que c'est un homme clé du système Lagardère. Donc il y a un personnage, on peut traiter ça par la dérision, et j'ai aussi cette tentation, comme vous tous, mais en même temps, il y a un effet d'imprégnation idéologique, de mépris du savoir, de mépris de la culture, de mépris de la science, de mépris de l'intelligence, promu par des institutions médiatiques qui devraient avoir pour souci d'informer leurs lecteurs, qui pose un véritable problème.
Cowboy Scott, he loves his Scott. He plays it all day when he's riding his horse, when he's doing his chores, and when he's at home. Of course, Cowboy Scott. Cowboy Scott.
Voilà, merci à tous, merci à l'équipe du Monde Diplomatique, Daniel Linhart, Ignacio Ramonet, Dominique Vidal, Martine Bullard et Serge Halimi aujourd'hui. À voir dans les salles de cinéma, c'est un conseil de Pascal Le Pascariello. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. C'est un documentaire de Marc-Antoine Roudil et Sophie Bruno sur la relation entre la souffrance des salariés liée aux nouvelles formes d'organisation du travail. Et puis notre série en Inde et au Bangladesh ne commence pas aujourd'hui, vous en êtes aperçu, contrairement à ce qu'on vous a annoncé un peu sur France Inter, c'est la semaine prochaine. Il y a une gourance d'une semaine, on partira le lundi 20 mars pour l'Inde et le Bangladesh. La série spéciale de reportage s'intitule « Comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise ?» Pour vous réconcilier peut-être avec les États-Unis, tel que notre BHL les raconte, vous pouvez lire l'autobiographie d'un Américain qui s'appelle Howard Zinn, qui avait déjà, souvenez-vous, on l'avait reçu dans l'émission, écrit une histoire populaire des États-Unis. Howard Zinn est non seulement un historien, mais c'est un homme engagé, véritablement engagé, et son bouquin s'appelle « L'impossible neutralité ». C'est donc aux éditions Agon, l'autobiographie de Howard Zinn, Z-I-N-N. Et puis donc, alors j'en parlais au début, Une imposture française, le bouquin de Nicolas Beau et Olivier Tosseur, c'est aux éditions Les Arènes, et c'est très très savoureux, très cinglant sur cet imposteur dont Serge Halimi vient de parler. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Julien Chabassu et Ludovic Asselot. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Pascariello et de Christophe Imbert pour le répondeur sur cette musique qui fait vraiment le western du pauvre qui est parfaite. Et le numéro du répondeur, c'est 0156 40 37 37 et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.